Non.
Thierry les premiers, monsieur les Anglais. Allez-y.
Tout d'abord, c'est vraiment très agréable d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux de participer à la danse. En tant que directeur du Théâtre Français, c'est très agréable. On a nos bureaux les uns en face des autres, donc on se voit souvent, on se croise souvent. Donc d'être dans ce contexte-là de la danse, c'est formidable. Et alors évidemment, de pouvoir poursuivre une conversation avec Robert qu'on a de façon très, très étrange, parce qu'on se voit dans toutes sortes d'endroits. Ouais. Et dans de toutes sortes de coïncidences, de hasards, parfois officiels, parfois pas du tout.
Ouais.
Et puis c'est comme si une conversation se poursuivait, comme ça. Alors, donc là, on a la possibilité de la poursuivre avec vous pendant un temps. Alors évidemment, c'est à l'occasion du spectacle de Enogata qui est présenté depuis hier et aujourd'hui, ici, qui va se poursuivre. Alors, vous allez voir, voilà, je vais commencer une série de questions qui tournent autour de toutes sortes de choses. Mais comme je vous dis, je pense que ce qui est important, c'est de voir dans cette rencontre une suite et non pas un début de conversation. Donc, voilà. Alors, on pourrait peut-être...
Je crois que je me replace.
Oui, c'est... voilà. La dernière fois, c'était ici, en fait.
Oui, même, effectivement. Voilà.
En fait, peut-être la première question, c'est comment avec des artistes qui viennent de milieux différents, Russell Malifant, Sylvie Guillaume, et puis toi, comment s'impose un... Avant même même pas la question comment vous avez eu l'idée de faire quelque chose ensemble, comment s'impose le personnage? Comment est-ce que c'est toi qui es arrivé en disant il y a ce personnage du chevalier de Déon, et eux ils ont dit ah tiens bonne idée. Comment ça s'impose? Comment la notion de personnage dans le milieu de la danse arrive?
C'est intéressant comme question, parce que justement, ça paraît évident, parce que moi, je suis quelqu'un, je viens du monde du théâtre, donc on a affaire à des personnages, on a affaire à des histoires, on porte des costumes, on signifie les personnages ou les situations d'une façon pas réaliste, mais d'une façon reconnaissable, où le spectateur n'a pas à décoder outre mesure quelle est l'histoire, même quand l'histoire est un peu tarabiscotée, comme ça, les gens finissent par trouver le fil et s'y reconnaître ou s'y retrouver. Alors ça, c'est le théâtre. À l'opposé de ça, il y a la danse moderne ou la danse contemporaine qui, je généralise un peu parce que c'est pas vrai que la danse moderne contemporaine n'est qu'abstraite, mais en général, la danse contemporaine, c'est une forme d'expression qui est extrêmement libre, extrêmement qui s'est libérée. Il semble qu'on puisse exprimer des choses qui sont pas nécessairement évidente à exprimer avec des mots, et il y a une espèce de, et tout est basé sur l'intuition, l'énergie, la vélocité, la poésie, l'abstraction, dans ce qu'elle a de plus belle. Et moi, ça m'a toujours fasciné, mais j'ai jamais été capable de me laisser aller dans cette direction-là. Et au milieu, il y a la danse classique, qui elle est issue des deux et qui fait le pont entre les deux. Parce que, et je parle plus particulièrement de l'univers de Sylvie Guillaume, ce que je décrivais avant, c'était l'univers de Russell Malifant, qui a une formation de danseur classique, mais qui très très vite est allé vers la danse contemporaine, parce que bon, il se sentait plus proche de cette expression-là. Tandis que la danse classique, Sylvie, elle, elle a quand même été la danseuse étoile à l'Opéra de Paris, elle a été vraiment, et au National Ballet, Royal National Ballet à Londres pendant 8 ans, je crois. Donc, elle a été une grande danseuse étoile qui a joué des personnages, comme on fait au théâtre, qui a porté des costumes, qui a joué le cygne dans le lac des cygnes, qui a joué la nièce de Don Quichotte, et qui raconte des histoires comme on le fait au théâtre, mais avec l'abstraction du geste, avec un langage. D'ailleurs, elle s'est amusée beaucoup en répétition il y a une espèce de langage un peu de sourd-muet qui font les danseurs pour exprimer, bon, ça, c'est le prince, et ça, c'est le pouvoir, puis bon, il y a toute une espèce de, qui est très, très abstrait, qui est, c'est-à-dire qu'on, où on en a retenu que les, si on veut, l'énergie, ou, mais c'est un langage très, très abstrait, mais ça veut dire très précisément, méchant, bon, amour, bon, il y a tous ces, qui sont pas nécessairement des clichés, qui viennent d'un endroit qui est très vrai, très senti. Alors Sylvie, elle a été un peu l'entremetteuse de tout ça parce que je pense qu'elle aussi, elle a envie de réconcilier ces deux mondes. Peut-être parce que la danse classique lui manque, pas nécessairement dans la forme, mais dans cette espèce de permission que la danse classique a de à la fois être extrêmement réaliste et reconnaissable et à la fois être extrêmement abstrait. Alors ça a été, si on veut, mon guide, ça a été mon ange gardien. Elle m'a vraiment amené dans le monde de l'abstraction, sans pour autant être complètement muet, être complètement dans une forme ou logique. Donc c'était une envie de travailler ensemble. C'était une envie pour les trois de se dépasser parce que moi, je fais quand même beaucoup de choses. Je fais beaucoup de spectacles. Je fais des opéras. Je suis très occupé à plein de choses. Mais finalement, je fais à peu près toujours la même chose parce que on me demande de faire quelque chose avec ma sauce à moi. Donc, je suis dans ma sauce et puis je m'arrose et puis je fais ça. Puis, il y a pas beaucoup de monde autour pour me sortir de là et me dire, tiens, il y a de la sauce. Il y a une autre sauce aussi ici. Puis il y a la fondue chinoise, c'est un peu comme ça. Et on avait envie de se mettre en danger aussi parce que dans nos disciplines, on est reconnu, les gens, on n'a pas à faire nos preuves nécessairement, on fait à peu près ce qu'on veut quand on veut, ce qui est un grand luxe. Et là, tout à coup, on s'impose les trois des limites. C'est très difficile, moi, physiquement, de faire ce que j'ai à faire dans le spectacle. Pour eux, de parler, c'est vertigineux. Alors, on est tous un petit peu comme ça. C'est très important. Et le personnage, le personnage du Chevalier Déon, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Mais bon, comme je suis certain que t'as des milliers d'idées de pièces et de personnages, mais on fait pas, il faut absolument que je fasse quelque chose sur lui. Si le personnage tout à coup apparaît dans une salle de répétition, on l'explore. Et au départ, c'était que de l'idée du jeu, et on en a déjà parlé, de l'esprit ludique. Tu sais, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. On a improvisé. Moi, j'ai essayé de danser avec eux. Moi, j'ai essayé de leur imposer un autre genre de gestus. On a travaillé avec des costumes. On a fait plein de choses. Et à un moment donné, de ça est apparu le personnage du Chevalier Déon. Mais aussi, le personnage vient des gens avec qui tu travailles. Je suis intéressé par les artisans que j'invite dans mon giron. C'est d'abord, j'ai sûrement beaucoup de choses à dire, mais mon urgence, c'est d'être un boy scout. C'est vraiment de m'asseoir avec d'autres louveteaux ou d'autres scouts, puis bon, on fait des jeux, ok, on part, on va faire une expédition, puis bon, on va dans le bois, puis là, bon, on essaie de faire de la survie. Alors, on fait de la survie dans le bois pendant 2 semaines, puis c'est ça mon truc. Et à un moment donné, la personnalité des gens ressort, et c'est à travers cette personnalité-là que les sujets viennent. Le Chevalier Déon, qui est un personnage... c'est encore pas très clair, parce qu'il y a toutes sortes de théories, est-ce que c'était un homme, une femme ou un hermaphrodite, on ne saura probablement jamais. C'est intéressant parce que c'est ce qui est vraiment, pour moi, ressorti de nos rencontres, Sylvie, Vassar et moi, qu'on avait tous un côté, moi j'avais un côté féminin très fort à certains niveaux, Sylvie est très masculin, Russell à sa manière, c'est une chose qui est ressortie beaucoup ça. On s'est dit bon ben ça serait intéressant peut-être de partager le même personnage, et justement de montrer toujours l'ambiguïté et la richesse de ce personnage, parce que souvent on demande à un acteur ou un interprète ou à un danseur de jouer qu'un personnage et de l'enrichir, de faire sa recherche, tandis que là quand on est trois à jouer le même personnage, on en fait un personnage encore plus riche parce qu'on arrive avec notre univers à nous et notre... Alors Russell, c'était évident à cause de sa carrure, sa musculature et son côté plus petit macho. Il est tout à fait le contraire d'un macho, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pouvait faire l'époque où Éon était fasciné par les armes et par le militaire et par tout ça. Ensuite, la deuxième partie de la vie, quand il découvre finalement que s'habiller en femme permet de libérer tout un aspect de sa personnalité, surtout sa créativité au niveau de l'écriture, au niveau de la correspondance, au niveau de la diplomatie. Donc, c'est évidemment, Sylvie, elle fait cette partie-là, et moi, je fais la vieille femme, frustrée, vieillissante et clownesque, mais bon, parce que la fin de la vie du Chevalier Léon est quand même assez triste, parce qu'il a été condamné à vivre en femme, et avec la Révolution française, ils l'ont même expulsé de France, donc il a vécu à Londres, dans un pays qui n'était pas le sien, à parler une langue qui n'était pas la sienne, dans des vêtements qui, paraît-il, n'étaient pas les siens. Il est mort dans la pauvreté. Il est devenu une bête de cirque parce que, bon, ses talents d'escrimeur et tout ça étaient utilisés dans des cirques pour faire rigoler les gens. Donc, moi c'est, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ai fait cette partie. Mais donc il y a une espèce de fraternité ou de confrérie, je ne sais pas comment appeler ça, du fait qu'on est trois artistes qui pourrions très bien tomber dans les facilités, mais là on fait des choses très difficiles. On est vraiment devant nos limites, on se fait mal, on essaie d'entrer dans des endroits où on sait qu'on va être critiqué. C'est sûr qu'on va être critiqué.
Comme quoi, par exemple?
Ben, c'est sûr que, bon, moi, je suis pas le meilleur outil pour le Russell Malefant, qui a un style de chorégraphie extrêmement... ça prend des corps extrêmement versatiles, souples, forts et tout ça, bon, ce qui n'est pas mon cas. Je peux lui être à son service jusqu'à un certain niveau, mais je sens que... Bon, et c'est comme ça avec le texte, c'est comme ça avec tout. Alors, on a tous nos frustrations, mais en même temps, on est devant, c'est comme si on faisait de la sculpture, on est devant un bloc de marbre, on dit non, ce soir, il faut que j'arrive à le faire. Puis bon. Alors on entre dans une logique qui n'est pas la logique habituelle dans laquelle ça devient un peu redondant aussi. Mm. Puis moi, mes spectacles au départ étaient très physiques. Et avec le temps, ils sont devenus très, très bavards, sans aucune discipline de l'écriture, sans aucune... j'avais envie de retourner, si on veut, à un travail plus physique, et pour me rendre compte que si j'allais là, ça allait me demander une discipline encore plus forte que la discipline de... Alors, il a fallu que je perde quelques kilos et que j'essaie de me mettre en forme. Mais bon, c'est très violent. Quand on a 50 ans, de dire, bon, je fais de la danse, on se fait violence, c'est terrible. Mais il faut faire ça, sinon, bon, on est dans notre sauce, puis on fait, bon, puis bon, là, on va faire un spectacle là-dessus. Bon, oui, on a une recette.
À quoi, justement, par exemple, pendant les répétitions, pendant le travail, contre quoi tu as eu, toi, à lutter pour ne pas, justement, aller dans ce que tu fais depuis longtemps? Enfin, comment la lutte s'est faite en toi? Est-ce que tu as eu parfois l'envie de très vite te mettre à structurer les choses? Contre quoi tu as lutté pour rester dans le rapport de risque et de découverte?
Ouais. Et tu vois, pour ce qui est de structurer l'histoire et tout ça, bon, je sais qu'eux, ils avaient envie de me donner ce bout-là, parce que bon, je suis assez bon actuellement pour trouver... mais c'est venu un peu tard, ça, je sais pas, moi, je pense que d'accepter qu'on parle d'énergie du personnage plutôt que parler de motivation du personnage. Des choses comme ça. C'était entré dans un monde, dans un vocabulaire, dans une... Ça, c'était très difficile pour moi d'accepter le côté illogique, souvent, d'un geste, d'un mouvement, et de me rendre compte aussi que il y a beaucoup de vanité hein, dans le monde de la danse, pas nécessairement dans le sens péjoratif, c'est-à-dire qu'on de se regarder dans le miroir constamment. Moi, j'ai jamais fait ça. Ça me fait peur, ça me terrorise. Je regarde jamais des captations vidéo de mes spectacles. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et là, de constamment être là, puis de faire ça, et de faire ça, puis de faire un petit peu, ah non, là, on a tapé un peu. Et au-delà de l'esthétique ou de la vanité, de la fierté, de dire non, le geste, il est beau, il est signifiant, il porte ce qu'on veut dire, s'il est fait comme ça, et pas comme ça, comme ça, et que c'est cette espèce de patience qu'il faut avoir et de... Et ça, ça a été une lutte terrible. Pour finalement faire une chose qui est très abstraite et qui ne sera pas nécessairement saisie du premier coup. Où les gens vont peut-être te redonner une impression ou un commentaire sur ce que tu as fait beaucoup plus tard. Pas tout de suite après le spectacle. Hey, c'est bien, j'ai tellement ri, j'ai pleuré, ça fait partie de moi. Il n'y a pas ça après le spectacle de danse. Oui. Les gens sont un peu... Et d'accepter ça.
Est-ce que... juste revenir un peu sur cette question du... Parce que, à première vue, comme ça, le personnage qui est dans un rapport de l'extérieur de flou, identitaire, sexuel, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que... Évidemment, on peut l'associer rapidement sur... Enfin, une des lectures possibles, c'est de faire une association par rapport aux trois interprètes qui sont là. Est-ce que je suis devant un spectacle de théâtre? Est-ce que je suis un spectacle de danse? Est-ce que je suis un spectacle de danse classique, de danse contemporaine? On peut aussi le faire, on peut aussi associer ce personnage à ta propre trajectoire. Tu fais dialoguer à la fois le Cirque du Soleil dans un rapport extrêmement populaire, de spectacle extrêmement lié à un langage que tu inventes presque de toute pièce, puisque tu fais construire carrément le théâtre pour que le spectacle aille dedans, jusqu'à en passant par La Face Cachée de la Lune ou les spectacles solo au Metropolitan dernièrement, la première partie de la tétralogie de Wagner, qui là on tombe dans un autre monde de spectateurs, je dirais, on est dans un rapport d'élitisme entre guillemets. Le monde de l'opéra est un monde complexe. C'est un autre monde. Donc toi-même tu navigues assez joyeusement, j'ai l'impression, entre tous ces mondes-là que tu fais dialoguer, mais qui peut créer aussi, entre guillemets, une forme de... Le mot flou peut avoir quelque chose de négatif, il ne l'est pas du tout dans ce sens-là.
Quelque chose qui n'est pas identifiable.
Voilà, c'est ça.
On parle d'identité, non, c'est très juste.
Est-ce qu'il y a, dans ce personnage-là du chevalier Déon, alors... Juste revenir un peu à ça, quand tu as dit, il y avait ça depuis longtemps dans la tête, on a commencé par travailler, on a fait toutes sortes de choses, on a cherché, puis à un moment donné, c'est arrivé. Est-ce que tu peux nous raconter comment exactement, le jour où tu es, la première fois où tu leur en as parlé, qu'est-ce qui a précédé, qu'est-ce qui est arrivé au moment où tu as parlé de ce personnage, comment ça s'est passé?
Okay. Bien, en fait, on a fait une séance qui a duré 2 semaines à peu près à Québec, à la caserne, où Russell et Sylvie sont venus travailler. On a exploré pendant 2 semaines et on passait plus de temps aussi à faire des activités para-exploratoire, ça veut dire qu'on passait beaucoup de temps au restaurant, puis on était... Non, mais parce qu'il fallait apprendre à se connaître aussi, puis on allait glisser au glissade Valcartier, parce qu'évidemment, c'est on faisait des activités physiques, finalement, qu'on pensait pas qu'il y avait rapport, mais qui plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens avec ce qu'on essayait de faire. Mais il y a un moment où, j'ai toujours été très très intéressé par le théâtre japonais, parce que j'ai passé beaucoup de temps au Japon, tout ça. J'ai toujours été fasciné par les codes du kabuki, du no, du bunraku, tout ça. Et j'ai découvert, dans les explorations, il y avait un vieux kimono, j'aurais pas dû dire ça, là, c'était un super kimono qui était dans les 7 vents Gervirota, qui était tout poussiéreux parce que, il sortait de l'entrepôt, puis j'étais là, puis on s'est mis à jouer avec le kimono, et Sylvie, elle parle japonais maintenant, elle a travaillé beaucoup au Japon, elle tourne régulièrement au Japon, c'est une nipophile, je sais pas si c'est ce qu'il faut dire, puis elle aussi, les codes du kabuki, elle arrêtait là-dedans complètement, et je savais pas, et tout à coup, on a dit, ah, tiens, on a cette... Et dans le kimono, il y avait les bras de Russell, les bras musclés et poilus, ce qui sont pas les miens, là, qui sortaient, qui faisaient, c'est vraiment l'homme qui sortait de la femme, et qui bougeait, et tout à coup, ça faisait un personnage à quatre bras, puis à un moment donné à 4 jambes, qui était à la fois le porteur, mais qui était à la fois aussi cette espèce d'être étrange, qui rappelle un peu le mythe de l'androgyne, parce qu'on dit que, les Grecs, Platon disait que à l'origine, l'homme et la femme faisaient partie d'un même être, ils avaient un visage qui regardait dans des directions opposées, puis ils avaient 4 bras, 4 jambes, 2 sexes, et ils étaient extrêmement puissants. Parce qu'ils étaient parfaits, ils avaient les deux essences. et Zeus, bon, parce qu'ils étaient puissants, ils se sont demandé pourquoi on n'est pas les dieux, nous. Et Zeus les a foudroyés, les a séparés en deux. Et il s'est dit, ils vont tellement occuper à le côté mâle va tellement être occupé à toute sa vie à chercher son côté femelle et la femelle à chercher son côté mâle qu'ils n'essaieront pas de devenir des dieux. Et bon, et la légende veut que c'est pourquoi on dit le coup de foudre, c'est que quand tu revois la personne de qui t'as été séparé, tu réentends la foudre qui t'a séparé. Alors moi, c'est une métaphore que j'ai toujours trouvé très, très, très forte. Ça s'applique aux êtres humains, mais ça s'applique aussi à l'univers en général. Et ça, tout à coup, c'est apparu pour moi dans la salle de répétition. Il y a Sylvie qui était là, très élégante, avec un kimono japonais. Alors on imagine, elle improvise physiquement, elle fait ses choses absolument magnifiques. Et les bras de Russell qui sortent, et il y a l'androgyne qui est là devant moi, il y a le mythe de l'androgyne. Et là, j'ai dit, mais il faut absolument qu'on aille vers là. Et le chevalier d'Éon tout de suite est amené, puis bon, il y avait le jeu de mots Éon, puis Onagata, parce que le Nagata, au théâtre japonais, c'est Onna, c'est la femme. Onagata, c'est l'homme qui joue la femme, l'acteur qui joue la femme. Parce que la femme ne peut pas se jouer elle-même, elle ne se voit pas. Ça, c'est les Japonais. Alors, et moi, ça m'a toujours intéressé. Le travestissement m'a toujours intéressé. J'ai déjà joué un transsexué, moi, dans les plaques tectoniques, qui s'appelait Jennifer McMahon, qui était animatrice de radio à Radio-Canada International à New York. Mais bon, enfin, c'était la belle époque. Mais ça m'a toujours intéressé, le travestissement. Puis pourquoi le théâtre, mais pourquoi le théâtre est-il toujours affaire de travestissement, que ce soit dans les intrigues de Molière ou de Goldoni ou de Shakespeare, et aussi les règles de l'époque. À l'époque élisabéthaine, il n'était pas question que les femmes jouent au théâtre. Les femmes étaient jouées par les hommes. Et au kabuki qui a été inventé par des femmes et qui, une fois, les hommes allaient voir les femmes jouer ces histoires, et ils étaient complètement érotisés. Ils allaient voir les femmes après, puis bon, certaines se faisaient payer pour partir avec les hommes riches. Et là, l'empereur a dit, mais c'est tout à fait immoral, le kabuki, c'est l'occasion pour les femmes de se prostituer. Alors, il a interdit le kabuki pendant, je crois, 19 ans, je dis à peu près n'importe quoi, je me souviens, c'est 18, 19 ou 20 ans. Mais les gens voulaient avoir le kabuki, c'était une forme absolument flamboyante. L'empereur a permis le kabuki à condition que ce soit les hommes et que les femmes soient jouées par des hommes. Et donc le kabuki est revenu, et là, bon, évidemment, les hommes étaient extrêmement érotisés de voir un jeune homme jouer une femme. Alors ils allaient derrière, après, puis ils payaient les jeunes hommes, puis bon. Alors là, l'empereur a dit, le kabuki ne peut être qu'interdit, parce que ça veut dire qu'il est toujours l'occasion de comportements immoraux. Et là, il s'est passé je sais pas combien de temps, et à un moment donné, le kabuki a été ramené à la condition que ça se joue que par des hommes, et que l'homme qui joue la femme soit un homme mature. Et pour donner la preuve qu'il est mature, il doit avoir la calvitie jusque-là. Il faut que quand il met la perruque de la femme, qu'on voit, c'est pourquoi au kabuki, on se demande toujours la pointe qu'il y a ici, puis on voit en dessous que c'est rasé. Et ça, paraît-il que ça enlève tout le côté érotique. Alors, à ce moment-là, c'est un homme mature, un homme pas âgé, mais un homme mature qui joue une jeune fille. Donc, on voit très bien que, et cette jeune fille n'est pas du tout érotisante puisqu'elle est jouée par cet homme mature-là. Et paraît-il que ça a réglé la chose. Mais tout ça pour dire, c'est parce que puis à l'époque élisabéthaine, c'est la même chose, mais c'était pas les mêmes règles, mais c'était encore une fois une question morale. Moi, ce que je trouve intéressant dans les personnages comme Éon, chevalier d'Éon, ou George Sand, qui était une des inspirations pour les plaques tectoniques, George Sand qui avait changé son nom pour être publié, il s'appelait Aurore Dupin. Oui. Bon, elle a changé son nom pour George Sand, et bon, elle trouvait ça plus pratique de marcher, à traverser la ville de Paris, puis aller à tous ses rendez-vous en pantalon. Donc, elle portait le pantalon. Alors, les gens ont dit, bon, elle est lesbienne, ou elle veut provoquer, ou pas du tout. Elle voulait participer à son époque. Et moi, je pense que c'est ça, le travestissement, souvent, c'est ça. C'est qu'il faut revêtir les vêtements d'un autre pour participer à notre époque. Le chevalier d'Éon, il voulait participer à son époque. Il avait pas juste le goût de l'aventure, il s'intéressait à la politique, il s'intéressait à la guerre, parce que c'était un capitaine de dragons. Il s'intéressait à la société, il s'intéressait au secret d'État, à la paix aussi. Il s'intéressait, les gens savent pas, mais c'est la raison pourquoi le Canada a été remis dans les mains des Britanniques. C'est le chevalier d'Éon qui est allé négocier pour Louis XV en Angleterre. parce qu'il était un diplomate très crédible aux yeux des Anglais, et qui, lui, est arrivé, il a dit, regardez, on fait un échange, nous, on vous accorde le Canada à la condition que vous nous redonnez la Guadeloupe et la Martinique, parce que, bon, il y avait la canne à sucre. Puis il a dit, bon, mais ça, c'est rien, le Canada, là. Il fait froid, puis c'est juste... Alors, et c'est le chevalier Déon qui a eu cette idée, et qui a, bon, alors, c'est de sa faute, mais ça, bon, les gens savent pas que c'est lui. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai l'impression que peu importe s'il était un homme, une femme ou un hermaphrodite, il voulait participer à son époque.
Alors, juste, est-ce que tu peux développer cette pensée que tu viens d'exprimer, que je trouve vraiment très intrigante et très belle quand tu dis, pour participer à son époque, ouais, il faut se travestir. Comment tu pourrais développer cette... Qu'est-ce que tu veux dire?
Je sais pas, moi j'essaie évidemment, quand je suis face à un personnage comme le chevalier Déon, moi qui me passionne, qui me fascine, j'essaie de le ramener à moi. De la même façon que, bon, en 2008, j'ai fait des projections sur les silos à Québec pour les 400 ans, puis les gens, bon, tout le monde faisait l'histoire de la vie de Champlain, puis il semble que l'histoire de la vie de Champlain commence quand il a fondé Québec. C'est pas vrai, c'est une des dernières choses qu'il a fait, puis c'est la chose la moins intéressante qu'il a fait, Samuel de Champlain, dans sa vie, c'est fonder Québec. C'était son plan sa retraite, c'était son plan de retraite, fonder Québec. Avant ça, c'était un Français qui travaillait pour les Espagnols, qui a cartographié la Floride, les Bermudes, qui a travaillé d'abord pour les Anglais, pour les Espagnols, pour les Anglais, il a travaillé pour tout le monde. Et il a fallu qu'il, à l'époque où tout le monde était en guerre et tout le monde essayait de s'approprier le Nouveau Monde, il a fallu qu'il se fasse passer pour un Espagnol, il a fallu qu'il se fasse passer pour un Anglais, il a fallu et à l'époque des guerres des religions et tout ça, qui l'affiche ses couleurs sur certaines morales et pas sur une autre. C'était un grand aventurier, il a eu une vie absolument incroyable, un artiste fabuleux. Oui, il dessinait les monstres qu'il voyait, parce que quand il descendait pas, quand il pouvait pas descendre, il y avait une île de loin, il voyait un caïman qui avait juste deux pattes. Alors il disait, bon, ben là, il y a un caïman qui a deux pattes. Et c'est un type qui a eu une vie absolument... Tout ça pour dire qu'il a eu une vie un peu un peu comme le chevalier Déon, il a fallu qu'il mette beaucoup d'eau dans son vin et qu'il fasse un compromis pour pouvoir participer à ça, ensuite participer à ça, ensuite changer son identité. Et moi, je suis un peu un lézard. C'est ce que j'ai été obligé de m'admettre à un moment donné. Pour pouvoir faire ce que je veux faire, il a fallu que je... Bon, il y a un temps au Québec, si on voulait sortir, si nos pièces voulaient sortir, il fallait pas parler trop. Il fallait bouger, il fallait faire des images. Et ça a pris un temps avant d'avoir la confiance pour dire, bon, ben, moi, je parle ma langue, et ils mettront des sous-titres, c'est ce qu'on fait quand ils viennent. Bon. Mais au départ, non. Alors, tu lézardes comme ça, et ça peut paraître comme l'hypocrisie, mais en même temps, t'essaies de garder tes valeurs, et c'est très, très difficile. Et moi, le monde de la diplomatie, et surtout en ce moment avec, bon, on voit ce qui se passe dans le monde, puis, on se demande toujours comment le conflit au Moyen-Orient va se régler. J'ai dit, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de lézards. je me dis, c'est peut-être ça notre utilité, les artistes multidisciplinaires, multiculturels, c'est peut-être justement de s'accorder, d'avoir un côté de notre personnalité qui s'arrime à une idée ou s'arrime à une culture ou pas à l'autre, et tout à coup, et on devient des passeurs. Et c'est dur de se retrouver, c'est une vie très pleine de contradictions et de paradoxes, mais je pense que ça existe, hein. Quand on fait un casse-tête, il y a toujours cette pièce qui semble faire tenir tout le casse-tête ensemble, ben c'est ça, c'est des gens comme ça. Moi ça me... Je me dis, ben, c'est peut-être ça aussi moi que j'ai à faire, j'ai essayé de réconcilier l'opéra et le cirque. Bon, alors il y a un temps, tu sais, il y a un truc ici, parce qu'il faut que faut que l'énergie circule, faut que les idées circulent, et c'est ça, participer à son époque, c'est aider permettre aux idées de circuler.
Oui. Tout à l'heure, tu as dit en commençant que tu es évidemment impliqué dans une quantité importante de projets, de spectacles que tu portes, que tu défends dans différents endroits du monde, que tu fais jouer dans différents endroits du monde. Donc, on imagine très bien que lorsque tu as décidé de faire le spectacle avec Sylvie et Russell, ce n'était pas un manque de travail.
Ah non, pas du tout. Puis... Ah non, non, puis c'est une catastrophe à chaque fois qu'on rencontre. On rencontre Sylvie Guillem et Russell Malafant, puis ils disent, bon, on travaille avec toi. Puis tu fais, ah, merde, j'ai pas de temps. Mais maintenant, il faut.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, chez Sylvie Guillem comme danseuse, qui a fait en sorte que lorsque tu l'as vue danser peut-être pour la première fois, puis la deuxième fois, puis ensuite faisant connaissance avec elle, etc. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a chez cet artiste en particulier, parce que des danseuses, il y en a beaucoup, des danseuses étoiles, il y en a quand même quelques-unes. Qu'est-ce qu'elle a qui a fait en sorte que tu t'es dit, je vais non seulement travailler avec elle, mais je vais en plus jouer avec elle.
Ouais.
Et Dieu sait que jouer, ça prend beaucoup de temps.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a chez l'autre de si particulier?
Ben, c'est-à-dire que, c'est une fonceuse, elle est reconnue pour, elle a claqué la porte de l'Opéra de Paris, elle a claqué la porte du c'est quelqu'un avec une personnalité, et moi, les femmes qui me plaisent, c'est ces femmes-là, et je les suis comme ça. Je trouve ça extraordinaire parce que moi, je suis timide et tu connais ma sœur.
Oui.
Bon, ma sœur qui est mon adjointe, elle a un an de moins que moi. Puis quand j'étais jeune, je me faisais battre. Elle prenait sa corde à danser. Puis pam, 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 pam. Puis était là. Alors, ce qui fait que il y a toujours eu une femme très forte, et que ce soit des actrices comme Marie Gignac ou bon, peu importe. Après ça, il y en a une, Rebecca Blankenship, une chanteuse d'opéra. Ce sont ces espèces de forces de la nature qui sont devant moi. Puis moi, je me cache derrière. Je dis, allez, vas-y. Il y a ça qui est extrêmement séduisant chez Sylvie, à part c'est quelqu'un qui est pas qu'elle sait où elle s'en va. Elle est aussi perdue que moi, mais elle sait qu'elle est pas dans la bonne voie. Elle fait bon, allez, on va et on se casse la gueule, mais on y va. Et ça, c'est vitriolique et on y va. Et c'est quelqu'un qui a envie de raconter des choses avec ce qu'elle fait. Et elle remet en question. Elle a d'ailleurs fait un spectacle avec Akram Khan. Où elle ose parler sur scène, où elle raconte ça, elle dit, ben, à quoi ça sert ce que je fais? Et à un moment donné, elle a l'impression qu'elle sert à rien, et que t'as beau être une danseuse étoile, tout ça, à quoi ça sert? Et à un moment donné, elle dit, je réalise que ce que je fais, je fais pas de mal à personne avec ça. Au moins, si je le fais bien. Puis, alors, à un moment donné, elle s'en sert comme outil pour parler, pour raconter, elle a envie de jouer. Et ça, c'est très séduisant. C'est une artiste et c'est une artiste sportive aussi. Elle vient du sport, elle vient de la gymnastique et tout ça. Et moi, je trouve que le théâtre n'est pas assez sportif en général. C'est ce risque-là du jeu de, est-ce qu'on va y arriver? Ce soir, on n'a pas scoré. Bon, ok, demain peut-être. Bon. Mais il y a ça avec Sylvie. Et ça, c'est extrêmement motivant, extrêmement attirant. Mm-hmm. Mais ceci dit, juste pour répondre à la deuxième partie de la question, et qui n'est pas aussi évidente, moi je ne savais pas que j'allais danser au début de toute cette aventure. C'est venu un petit peu après la quatrième rencontre, je ne sais pas où on était, dans un café, on parlait, puis j'ai dit, Sylvie, bon, c'est bien tout ce projet, mais je ne suis pas chorégraphe, alors je ne sais pas comment vous voulez que je vous aie la structure et l'histoire. Tu as dit, non, mais on veut que tu danses avec nous. Et si ça avait été la deuxième rencontre ou la troisième, j'aurais fait non, écoute, il n'y en a pas question. Mais là, la quatrième, tu peux plus reculer. J'ai dit, on va danser. Alors j'ai pris mon verre de vin, puis j'ai fait ça, puis j'ai tassé mon steak frites, tu sais. Puis j'ai fait, bon.
Mais justement, on plaisante avec ça, mais c'est pas si faux. C'est-à-dire qu'en effet, il a fallu que tu changes d'alimentation.
Ah, il a fallu que je change tout. J'ai arrêté de boire. Il a fallu que je commence à m'entraîner. Mais encore une fois, une chose à 50 ans.
Oui, c'est ça.
Ce qui veut dire que j'ai 52 ans. Et bientôt 53. Et comme je disais tout à l'heure, c'est se faire violence. Mais se faire violence, là, à 50 ans. Quand on est plus jeune, bon, on a l'énergie, on a l'ambition, on a tout ça. Mais là, ce qui nous motive, c'est d'être au rendez-vous avec quelqu'un qui t'a donné rendez-vous.
Oui.
Et puis le rendez-vous qu'ils t'ont donné ou qu'ils t'ont donné, il est très risqué, il est très casse-gueule, et en même temps, il est extrêmement attirant.
Est-ce que Est-ce que tu as l'impression que... Enfin, j'ai deux questions, puis... Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères la question douce ou la question peut-être plus...
Hit me, honey.
Non, elle est plus... il y en a une qui est plus compliquée, mais...
Ouais. Je vais te la simplifier, allez.
D'accord. Ok, ouais, non, elle peut être intéressante. Les spectacles sur lesquels tu travailles, parfois, mettent en jeu des... proportionnellement par rapport au monde du théâtre et par rapport au monde de la scène, je dis bien proportionnellement à ce monde-là, des sommes d'argent qui peuvent être assez importantes et assez... et qui deviennent parfois, je dis ça par exemple par rapport... j'ai, en suivant un peu l'actualité qui a entouré l'opéra sur lequel tu as travaillé, à un moment donné, il y avait une surcharge médiatique, en tout cas.
Ouais.
On entendait beaucoup parler de combien a coûté le décor.
Oh, bon.
Ce qui, au fond, tu te dis, mais on a plus envie d'entendre parler du spectacle et de ce que ça raconte, etc., que de savoir combien ça a coûté. Mais la somme d'argent, étant ce qu'elle est, j'avais envie de te poser comme question, comment est-ce que la question économique, dans ce qu'elle peut avoir parfois de disproportionné par rapport au monde du théâtre, est-ce que tu as eu à un moment donné à la regarder en face et de la régler, de la réfléchir, ou c'est une question qui s'est jamais vraiment posée à toi ? Quelle place elle a ?
Ben, c'est-à-dire qu'elle occupe pas beaucoup de place parce que c'est leur problème à eux, pas dans le sens que ben, je fais quelque chose, tu paies, c'est pas ça du tout. C'est pas cher ce qu'on a fait pour ce qu'ils ont. Et au cirque, et à l'opéra, tout ça. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que si les médias en ont fait un gros truc, c'est les médias américains. Et comme tu dis, on aurait aimé entendre parler du... ça les intéresse pas. Honnêtement, ça les intéresse pas. Puis pourtant, j'en ai fait des entrevues, on en a parlé de long en large. Je suis allé me faire bénir par le Wagner Society. c'est quelque chose. Hein, oui. C'est vraiment c'est comme entrer chez les francs-maçons. C'est quelque chose. Monter Wagner à New York et puis j'ai fait tout ça. Et ça intéresse pas. It's not a good story. Et combien ça a coûté, monsieur? Pourquoi? Parce que c'est pas le gouvernement qui paie. C'est des particuliers qui paient. Des mécènes, voilà, des donateurs, des bons. Et toute la question de l'argent, on est dans la ville de l'argent à New York. Alors c'est sûr que le personnage principal, c'est l'argent. Mais pas nécessairement chez les artistes, et pas nécessairement chez le directeur artistique. Peter Gelb, lui, l'argent, oui, il faut qu'il justifie et tout ça. Mais c'est l'histoire qu'on raconte, c'est le coup de barre qu'on donne dans une direction où le maître n'est pas allé, c'est tout ça qui l'intéresse, lui. Et lui va m'appuyer, il va me supporter jusqu'à la fin. Donc moi, j'étais très, très heureux au maître de faire ça. C'est vraiment les médias qui en ont fait un truc disproportionné, parce que, je vais te dire, il y a des choses... Le maître de Los Angeles a coûté deux fois le nôtre. Et en Europe, on n'entendrait jamais parler du décor, parce que c'est une autre économie, une autre réalité économique. Et c'est malheureux parce que moi, je pense que c'était plutôt bien ce qu'on a fait. On n'a pas fini, il nous reste encore trois parties. Et c'est l'endroit où moi j'ai appris le plus sur le théâtre. C'est avec cette expérience. Et pour la direction d'acteurs, moi ça m'a toujours emmerdé les metteurs en scène. J'espère que tu te reconnais pas, parce que je pense pas que tu travailles comme ça toi non plus. Mais tu sais, le metteur en scène qui contrôle l'acteur et qui dit c'est moi qui va te faire jouer, tu vas jouer comme ça. Non. Bon, moi ça t'es d'accord, c'est en général c'est ça. Le metteur en scène, leur fierté, c'est dire je l'ai pris, elle était rien, elle est une grande.
C'est le rapport du dresseur au chien.
Ouais, exactement. Bon, et moi ça vraiment, mais certains acteurs sont malheureux. C'est des acteurs qui veulent ça, puis avec moi, ils sont très malheureux parce que je dis, bon, ben, t'as ton travail à faire aussi, là. Je peux t'aider, je peux t'enligner. Tout ça pour dire que j'ai eu le bonheur de travailler avec James Levine. J'avais déjà travaillé avec lui sur La Damnation de Faust, mais là, vraiment, je suis vraiment allé le voir, parce qu'il y a ce qu'il appelle les musicals, là, où absolument le metteur en scène se pointe pas, où il travaille que la musique avec les chanteurs. Et moi, je me suis permis d'y aller. Et je l'ai observé travailler, et je me suis dit, mais c'est ça, diriger un acteur, un personnage. Comment, avec la musique, il arrive à éclairer les intentions des personnages, comment il les aide à trouver dans la musique, comment pousser telle idée. Et moi, la chose qui m'a le plus, mais vraiment dans ma carrière, dans ma vie, j'arrive pas à comprendre tout ce que ça a créé chez moi. J'étais assis dans la salle et quand la première fois qu'on a eu l'orchestre, ce qui est toujours un choc quand l'orchestre arrive dans la salle avec ton spectacle qui a été accompagné par un piano bien discret et que bon les chanteurs chantent à pleine gueule puis bon le petit piano, mais là t'as l'orchestre, il faut que les chanteurs ils passent par-dessus l'orchestre. Et t'as James Levine pour la première fois qui vient et qui constamment leur crie quelque chose et j'arrive pas à comprendre ce qu'il leur crie et ça change tout. Alors je m'approche puis il crie encore puis je me dis qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il leur dit. Et à un moment donné, je suis vraiment assis là, il y a la fosse d'orchestre est là, il est là à côté de moi et je l'observe et il leur crie texte. Il crie pas plus vite, moins vite. Il crie texte. Et là, je suis complètement choqué. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait texte? Il entend pas le texte. Alors oui, la musique, oui, Wagner, oui, tout ça, mais les mots, le texte, l'intention, le personnage, c'est ça la musique. Elle est tirée. C'est ça la locomotive du spectacle. C'est les idées du texte. Et moi, ça m'a giflé. Et je nommerai pas de metteur en scène, mais un autre metteur en scène aurait crié « texte ». J'aurais fait Mais lui, non. Parce qu'il a vraiment saisi ce que ça voulait dire, diriger le texte, s'inspirer du texte, s'inspirer de la partition et du texte. Et quand une grande œuvre lyrique, c'est quand il y a une rencontre entre ces deux choses-là et qu'elle est tellement organique et qu'une supporte l'autre et tout ça. Et moi, ça a été une leçon de direction d'acteur qui m'a donné envie de monter du texte. Ce que j'ai presque pas fait dans ma vie, que j'ai abandonné parce que j'arrivais pas à saisir. Et ça m'a fait, bon, c'est ça, c'est la musique et le texte. Et ça, ça a été un grand... ça a été vraiment vitriolique.
Merci. peut-être qu'on peut passer à des questions. Alors, comme Cathy l'a dit, vous pouvez poser à la fois des... Alors, je suis désolé d'avoir fait la conversation en français, mais ça aurait été vraiment catastrophique s'il fallait que je la fasse en anglais. voilà, mais vous pouvez le faire dans les deux langues, bien sûr.
One little question. Si j'ai bien compris, c'est les artistes qui vous ont approché pour travailler avec vous. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous vous connaissiez avant?
Ben, en fait, il faut dire que, ben, maintenant, ouais, je dis qu'elle est bien ça. Il y a une, notre communauté, quand on fait du travail qui voyage un peu, tout ça, il y a une nouvelle communauté qui se forme, qui est la communauté des gens qui voyagent, la communauté des gens qui font de la tournée. Et il y a des festivals un peu partout, puis il y a peut-être quoi par année 20, 30 spectacles qui sont les usual suspects. Là. C'est-à-dire que il y a des chances que tu te retrouves à Hong Kong et tu fais « Ah bon, ben tiens, ben, on s'est revus la dernière fois à Barcelone. » À un moment donné, il y a une communauté qui se forme. Et il faut que tu sois ouvert, évidemment, à cette communauté-là, parce qu'il y a des gens qui sont restent dans leur coin, mais... Alors, il y a des amitiés, il y a des... j'étais à Sydney, en Australie, je faisais le projet Anderson. Et puis... paraît-il, Sylvie est venue à quelques reprises voir certains de mes spectacles, puis elle disait toujours, je vais le voir, je vais lui parler, puis c'était pas le temps, ou elle voulait plus, elle disait, bon, allez, elle a pris Russell, elle dit, viens, on y va. Puis, j'étais très étonné, j'étais très, évidemment, parce que c'était quand même, c'est un monument, là, Sylvie Guillaume, et c'était tellement absurde aussi en même temps comme proposition, parce qu'on a dit, mais comment on va faire? On a des horaires, impossible. Alors, c'est vraiment, on croise trois trucs, on dit, ah, ça se croise là, bon, on se voit là, à tel endroit, puis on fait ça. Et c'est un peu comme ça. D'ailleurs, les représentations, c'est difficile physiquement pour moi, peut-être plus que pour eux, parce que ce sont des danseurs, ils partent en tournée. On est 4 mois, parfois. Sans, on joue quand on est les quatre, quand les trois, on est disponible. Alors, la dernière fois, c'était à Londres, cet été. Moi, j'ai mangé, hein, entre-temps. J'ai pas fait... Puis j'ai fait de la mise en scène, hein, mais j'ai pas... tu sais, j'ai pas dansé, j'ai sué, mais à un autre niveau, mais j'ai pas... Je veux dire que j'ai pas... Alors, ce qui fait que c'est... À chaque fois, c'est... Oh, je recommence, ça, puis eux, ils font des bars, puis Sylvie, elle fait le 6h30 avec sa jambe, puis moi, j'ai de la misère à faire le midi moins quart. Alors... C'est un peu... bon, et tout ça pour dire, ben, c'est dans ce contexte-là. Donc, il a fallu qu'on se donne des rendez-vous, puis on dit, ah oui, vous êtes à Paris à ce moment-là. OK, ben moi, je suis pas loin, je suis à Châlons, en Champagne. Je vais peut-être... Bon, OK, si on programme... Alors là, on prend 2 jours, puis on se voit, puis on fait des choses comme ça. C'était très, très, très complexe, mais il y avait cette envie de...
Ajouter que ça prend 18 mois d'arranger les spectacles pour les 3, parce qu'avec ces
arrangements, bonjour. Vous disiez que dans la danse, il y avait beaucoup de vanité, ce qu'il n'y avait pas au théâtre, le feedback du miroir. Etc. Et là, je me suis demandé si le feedback vient pas du miroir pour le comédien et si c'est pas non plus le metteur en scène qui contrôle tout. Alors, d'où il vient pour le comédien? Ouais.
C'est une bonne question parce qu'on sait pas justement. C'est en représentation qu'on sait. Il y a personne qui a le leadership. Il y a personne qui a le droit de veto final ou rien. On s'est mis dans un drôle de pétrin, justement, parce que oui, bon, le côté chorégraphique vient un peu plus de Russell et à l'occasion de Sylvie. Oui, l'histoire, le développement du personnage. Bon, Sylvie, à un moment donné, elle a pris toute la recherche en charge et elle a amené des idées très fortes. Oui, bon, au niveau de la mise en scène et comment restructurer. Moi, je me suis imposé à un moment donné, mais il n'y a pas de metteur en scène. Il n'y a personne. Alors, oui, il y a des assistants metteurs en scène, puis il y a des régisseurs, puis il y a des gens qui nous donnent quand même du feedback en répétition, mais c'est vraiment devant le public qu'on sent si les gens ont saisi ou quoi, ou qu'est-ce qui les touche, ou qu'est-ce qui les... ce qui fait que, c'est ça, on répète devant un grand miroir, puis on se dit, bon, je pense que ça va marcher. Puis, ensuite, on le fait dans la salle, puis c'est une autre réalité complètement. Mais il n'y a pas... C'est curieux de revenir à cette espèce de création collective, finalement. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... par la force des choses.
Merci. Dans la prochaine pièce de Robert Lepage, qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce que vous voyez déjà de cette rencontre et un agathe de la danse, du spectacle et du théâtre?
Ben, une chose qui est certaine, ben, sûrement plein de choses, je peux pas vraiment nommer ou incarner ces idées-là tout de suite, mais il y a une chose qui m'a frappé, moi, c'est qu'en même temps qu'on développait un agathe, on a commencé à jouer le Dragon Bleu, qu'on a eu le bonheur de faire ici l'année dernière, je crois. Bon, et qui joue encore, qui tourne encore, et qui, bon, je me remets dans les souliers du personnage à Londres au mois de février. Et ça m'a frappé comment, dans la pièce, on a une danseuse, une actrice de Singapour, une danseuse de Singapour. En fait, son premier métier, c'est est danseuse. Bon, on l'a fait danser, elle a 2-3 moments où elle danse et tout ça. Et ça m'a fait, mais on devrait tous danser, il y a des moments. Si on a invité une danseuse dans son spectacle, on a invité la danse. Il faut et maintenant j'ai l'impression d'être un petit peu plus armé, de comprendre un petit peu plus le monde de la danse pour continuer à développer le Dragon Bleu, qui a peut-être tout un chapitre qui a pas été dit encore, où il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été exprimées dans le Dragon Bleu qui pourrait probablement l'être de façon chorégraphique ou dansée. Alors c'est sûr qu'à Londres on va probablement développer cet aspect-là.
Est-ce que la narration dans Ionegata a toujours fait partie là, du spectacle dès le départ?
Oui, mais elle a toujours changé. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où c'est moi qui racontais le prologue, puis ensuite on a changé d'idée. Ensuite, on a le truc est en alexandrin au début. Quand on le fait dans des pays anglophones, c'est en anglais, mais c'est un autre. Là, on est dans le le iambic pentameter. Là, bon, on est, c'est tout un autre, et soudainement, ça donne le point de vue des Anglais, parce que le personnage du Chevalier d'Eon, il est autant britannique finalement que français, parce qu'il a passé la moitié de sa vie en Angleterre. Et il a participé à la vie sociale. Là, puis il y a eu des pamphlets, il y a eu toutes sortes d'histoires, on en passe, mais il est aussi important finalement pour les Anglais que pour les Français. Et c'est là qu'il est enterré. Il est enterré dans le Middlesex. Faut le faire, hein? Faut le faire. Ben c'est ça. Ben oui. Yeah, oui, il est enterré. Il est né en Bourgogne, puis il est mort dans le Middlesex. Et puis et tout ça pour dire que les Anglais se rappellent pas de lui, mais les gens qui s'intéressent un petit peu au 18e siècle, au long du 18e siècle, c'était un personnage très très important. Et donc la narration change selon aussi. Tout à coup, on a plus le point de vue des Anglais que des Français. Bon, il y a des choses qui veulent rien dire aux Français quand on joue en France, donc on les dit pas. Donc on joue, on change la narration beaucoup. On essaie de bouger tout ça, et c'est intéressant parce que bon, il y a un Canadien, une Française et un Anglais, et on essaie justement le personnage se prête bien à, si on veut, à ces trois cultures là mais c'est particulier. Par exemple, pour sous-titrer tout ça, c'est complexe un peu quand on joue en France, quand on joue en Angleterre, quand on joue en Allemagne. C'est ce que les gens comprennent, ce que les gens veulent qu'on sous-titre, c'est dans un spectacle de danse, c'est plutôt particulier.
On voit souvent le théâtre dans les spectacles de danse, plus souvent qu'on voit la danse dans les
spectacles. Tout à fait. Tout à fait.
J'ai adoré votre spectacle hier. Merci. Alors, fantastique. J'encourage les gens à y aller, même s'il y a seulement une autre présentation ce soir.
Il y a encore des billets.
Bon, c'est bien, ça, c'est au fait de la promotion. Alors, comme mon voisin, je suis un peu intéressée à savoir qu'est-ce qui vient devant vous. Alors, vous êtes associé à plusieurs artistes dans différents domaines. Je me demandais s'il était pour y avoir éventuellement des collaborations avec des sculpteurs, avec des peintres et avec surtout des architectes. Moi, je vous vois un peu comme le Frank Gehry, comme le Piano Renzo. Oh, alors, je me demandais si dans vos spectacles, maintenant que la pression est sur vous, si vous aviez éventuellement cette idée-là.
Bien, c'est-à-dire que ces idées-là ont toujours été là, puis on a consulté des architectes, des sculpteurs, des peintres, mais on leur a jamais donné une place de premier choix, où on n'a jamais vraiment fait de projet, disons, architecturaux. On était au service de l'architecture, ça c'est sûr. Mais moi, je suis ouvert à toutes ces choses-là. Je veux dire, pas que je trouve le théâtre insatisfaisant, parce que je suis toujours très satisfait par le théâtre. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il faut le nourrir de toutes ces autres disciplines-là, de toutes ces autres formes d'expression-là. Et ça va jusqu'à... Bon, moi, je me suis acheté une maison à Loretteville, là, en banlieue de Québec. Il faut dire la banlieue, maintenant, c'est malheureux. C'était la campagne, là, en tout cas. Et je suis sur le bord de la rivière, et de l'autre côté, c'est le village Huron. Alors, j'ai plein de projets avec les Hurons. Automatiquement, je les prends, puis je fais, bon, on fait quelque chose ensemble. Et mon voisin, c'est un type qui loue des canaux, et canaux légarés, et qui... bon, alors, la première année, je suis allé là, j'ai regardé, il y a une discipline qui s'appelle la canographie. En anglais, ça s'appelle... En anglais, c'est pas très bien, c'est Flat Water Freestyle, en tout cas, c'est un nom, le nom de même, ce qui veut dire que c'est comme une discipline sportive ou du plein air, tandis qu'en français, c'est canographie, puis il dit c'est comme danser sur l'eau, ils appellent ça comme ça. Alors, une fois, je suis allé à une démonstration de canographie, et c'est absolument magique, il y a des choses à raconter avec ça. Donc, on a fait un spectacle de canographie où on racontait des histoires, l'été, dans mes vacances. Alors, et je me suis dit, mais écoute, c'est génial, il y a toute cette forme d'expression. Donc, moi, je les ai aidés à faire un spectacle. Alors, moi, j'essaie toujours de chercher pas nécessairement chercher le théâtre dans les choses que je vois autour de moi, mais il y a toujours une théâtralité autour de nous, là, que ça prend toutes sortes de formes. Surtout à Ottawa, qui est la ville de la politique. Elle est partout, la théâtralité.
I'm just going to ask this question for that.
Yes.
We spoke in the press conference the other day. Other artists were mentioned, and I'm just wondering if I know both of you are so busy, you probably never have a chance to see very many performances. Mm-hmm. But are there great dance artists who have inspired you before?
Yeah.
CBM?
Well, actually, and we got to meet, I guess, one of our idols, Pina Bausch, when we were in Moscow, Wajdi and I. Actually, we were sitting at the same, that's another story. But I don't know, tu me permets de me moquer de toi un peu? No, well, first of all, I have to say Pina Bausch has been a great influence very, very early on, and I think she was an amazing lady, but I never got a chance to meet her. But I saw a lot of her work and was extremely influenced by her. But one day we ended up in Moscow at the Chekhov Festival, and it was to encourage the mayor to keep injecting money into that festival. He asks of all the main artists of each company that's been invited to come and do this kind of salam alek, you know, where we're at a long table and this woman from the ex-KGB, I mean, she wasn't even the mayor, hein, c'était une ancienne directrice du KGB, je sais pas, and she's sitting there and one after the other, and there was like Suzuki was there, which is quite a table. There was Suzuki, Declan Donnellan, myself, Pina Bausch, Philippe Gentil, and at the very end of the table, Wajdi Mouawad. And I'm sure he hates it when I tell the story, but so, and it goes on forever. And the first person starts and says, and everybody has an interpreter. And in Japanese, Suzuki goes to say how important the Chekhov Festival was for him in 1975 on this company, blah, 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 and goes on, and we're all sitting there, and she's going, and then she answers back. And so they do all this thing like that, and we all kind of schmooze, and then at the very end, and we just want it to be over, we all want to go out of it. And at the very end is Wajdi, who says, the very first Russian word I heard when I was young was Kalashnikov. And we all went, no, Wajdi, don't go there, no. We're going, no. But it was remarkable, and he just kind of went on and made it something very polite at the end, and very, very, but it's incredible. I said, oh, I can't believe this. And Declan Donnellan's forehead went boom on the microphone, you know. But it was wonderful, but it was, I love that anecdote, because it was so, you know, at the very, very end, you know, in which she starts. Anyway, so that was the... That's how we met Pina Bausch, who at that time was very, very, still already very frail, and so it was quite a shock to, you know, learn that not very long after that she passed away.
My question, c'est, mais premièrement, j'aime beaucoup vos œuvres, c'est vraiment incroyable. Je me demandais juste, est-ce que vous avez pensé de peut-être faire un autre spectacle avec des choses de Vinci dedans? Parce qu'en 86, vous aviez fait Vinci, puis
oui.
J'étais juste curieuse.
Oui, ben en fait, la Scala nous a commandé un nouvel opéra. Ils essaient de développer de nouveaux opéras. Venant de la Scala, c'est assez... Enfin, ben ils essaient. Bon, on a renouvelé le répertoire un peu, et on a un projet qui est sur la Renaissance italienne et Stephen Hawking. Mais c'est sur justement sur le rapport à Dieu, la science et justement l'époque où les arts et la science étaient, disons, plus intimement liés. Hein, Vinci, Vinci c'en est un autre chevalier d'Eon qui a eu une carrière absolument phénoménal, et on n'arrive pas à savoir est-ce que les dessins qu'il faisait, c'était à la fois des recherches dans la médecine, autant que c'était pour exprimer la beauté ou pour... Donc, et son rapport à Dieu, déjà à l'époque, était très particulier. Donc, plus tard, bon, avec toute la cosmologie, toutes ces choses-là, puis comment Galilée, qui était le père de la science et tout ça, donc... C'est un spectacle là-dessus. Puis notre point de départ, c'est l'idée que avant Galilée et la Renaissance italienne, les gens calculaient. C'était Dieu qui nous disait, qui nous donnait le temps, qui marquait le temps. Donc on regardait les étoiles, on regardait la lune, on regardait les quartiers de lune. On disait alors Dieu ou la grande puissance nous dit qu'on est au milieu du mois, et à partir de Galilée, c'est l'homme qui fait ça, qui avec son pouls, qui calcule et qui dit bon, j'observe un candélabre ou la lampe du sanctuaire là, dans une église, puis bon, elle oscille, puis je veux calculer, et qui se sert de l'homme pour calculer le temps, et qui à partir de là, et ça c'est la science. Et tout le reste, c'est la religion. Et il y a ça, la Renaissance italienne, elle est fascinante pour ça. Puis Vinci était très au fait de tout ça, Michel-Ange, tous ces gens-là. Et cette rencontre de la science et de la religion. Et Stephen Hawking, qui nous a fait un coup il y a quelques semaines parce qu'il est allé dire qu'on n'a plus besoin de Dieu pour expliquer l'univers. Alors nous, le projet a fait ça un peu là, avec les Italiens surtout, mais et qui lui a une vie absolument fabuleuse et qui est comparable à celle de Vinci et de Galilée et de donc on fait une espèce de d'aller-retour comme ça entre les deux époques.
We have time for one last question here in the front.
C'est pas grave.
J'ai pas encore vu le spectacle, mais j'ai vu des images. Puis je me demandais, vous avez parlé des vêtements et de travestissement de rapport avec les vêtements. Et je me demandais si quel rapport les vêtements dans le spectacle auraient avec notre époque.
En fait, les costumes du spectacle ont été créés par Alexander McQueen, qui, on parle que de grands artistes qui sont décédés. Bon, Alexander est décédé en février, je crois. C'est ça. Et on a eu le privilège de côtoyer Alexander McQueen, qui était vraiment un génie, un grand génie, qui a fait quelque chose de très très sobre pour nous, mais qui voulait faire quelque chose de très moderne. Mais on lui disait, c'est une histoire d'époque, ça se passe au 18e siècle, et c'est des redingotes, c'est des capitaines de dragons, c'est l'impératrice de Russie. Je veux dire, on est dans un univers, il faut que ça soit reconnaissable, il faut que l'époque soit reconnaissable. Puis il nous a dit, non, je vous promets, on va faire quelque chose de très très reconnaissable mais contemporain dans la pensée, tout ça. Et c'est vraiment vraiment dans ma vie là, quand on dit des rencontres avec des hommes remarquables là, Alexander McQueen, c'est absolument un être absolument fabuleux là, c'est malheureux on peut le savoir qui était si malheureux au point de s'enlever la vie. Et ce qui est étrange, et personne dans la presse britannique a relevé cette chose-là, c'est que, il s'est pendu, mais il s'est accroché dans son garde-robe. Comme si le corps, c'était un vieux costume. Puis que on le met au rencard. Puis ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Mais c'était un être absolument lumineux, un vrai génie. Quand on en rencontre, là, on le sait, puis ça en était un. Et qui tout de suite très très vite a vu ce qu'on essayait de faire ses costumes sont devenus vraiment parce qu'aussi on recevait les costumes pendant qu'on créait le spectacle aussi, c'était pas le spectacle fini, les décors, c'était vraiment ils ont été vraiment une source d'inspiration pour plusieurs des scènes. Il fallait apprendre à bouger avec ces costumes et les costumes imposaient une façon de bouger, de danser
Grand merci à Robert et à Wajdi for this time today. It's